Au cœur du festival, l'émission de la 43e édition du festival Montpellier Danse. À retrouver en direct les 19 et 26 juin à 17h sur Divergence FM.
Bonjour à tout le monde et bienvenue dans Au cœur du festival sur Divergence FM. Nous vous proposons ce magazine en partenariat avec le festival Montpellier Danse, dont la très prestigieuse 43e édition se déroule en ce moment même et durera jusqu'au 4 juillet prochain, en investissant sous diverses formes l'ensemble de la métropole, des spectacles, des conférences, des séances de cinéma, des grandes leçons de danse, des conférences de presse ouvertes au public, diffusées sur les réseaux sociaux. Vous retrouverez tout le programme sur le site montpellierdanse.com. Autour de moi, en studio, quelle chance j'ai. À ma gauche, Nazareth Panadero, bonjour.
Bonjour
à vous, Nazareth. Et puis, Jean-Pierre Alvarez, bonjour.
Bonjour.
Ensemble, nous allons replacer vos différentes œuvres au cœur de la problématique proposée par Jean-Paul Montanari et son équipe cette année, c'est-à-dire, où est-ce que se situe ce que vous venez offrir au festival cette année entre mémoire, transmission, création, héritage, etc. Avant que nous entrions ensemble au cœur de vos pièces, celles que vous allez présenter ou celles que vous avez présentées dans le cadre de cette 43e édition de Montpellier Danse, racontez-nous comment et quand la danse est entrée dans votre vie, en fait. Je crois qu'il y a une histoire avec votre papa, Nazareth.
Oui. Alors, je suis rentrée dans la danse grâce à une question de mon père, oui.
Okay.
Est-ce que tu veux danser?
Ok.
Et j'ai dit tout court oui. Il a cherché un conservatoire et j'ai commencé.
Ok.
Et le premier cours de danse, j'ai senti tout de suite que c'était une sensation inconnue jusque-là, qui m'était très proche et qui m'a guidé jusqu'à aujourd'hui. J'ai pas oublié cette sensation. C'est cette sensation qui m'a guidé toute la vie. Cette espèce de unité.
Oui.
Unité à l'intérieur et à l'extérieur. C'est universel et individuel. C'était ça ce qui m'a attiré dans les premières pliées à la barre avec la musique de Chopin au conservatoire à Madrid.
Est-ce que ça veut dire que vos parents étaient très consommateurs, très sensibles à tous les arts?
Oui. Mes parents étaient ouverts, on allait beaucoup au théâtre, à la danse. J'ai vu beaucoup de choses en tant qu'enfant. Seulement, probablement, si mon père ne m'avait pas demandé, j'aurais pas osé, parce que j'avais vu beaucoup de danse et de théâtre, enfin, tout ce qu'il y avait à l'Espagne oui. franquiste de l'époque, évidemment. Et ça me paraissait tellement lointain, tellement un univers que je ne pourrais jamais avoir accès. Ce n'est pas les gens comme moi, c'est magnifique, mais ce n'est pas moi. Je ne pense pas que j'aurais osé dire, ah, moi, je vais aussi être là-dedans. C'est cette proposition qui m'a, de mon père, une proposition,
exactement.
Qui m'a, pour un seconde, je me suis dit, ah, et peut-être c'est possible. Alors oui, alors j'essaye.
Jean-Pierre Alvarez.
Oui, moi, de mon côté, en fait, ça a été une petite amie que j'avais à l'époque, j'avais 16 ans, qui m'a proposé, je faisais de la musique déjà à l'époque,
okay.
m'a proposé...
Vous étiez au conservatoire
c'était un instrument... Non, absolument pas, je viens d'une ville qui s'appelle Auch, dans le Gers,
oui.
dans le sud-ouest, qui est une petite ville, en fait. Il n'y avait pas de conservatoire, mais des écoles privées, en fait.
Oui.
J'adorais la musique, j'en faisais moi-même, et j'aimais déjà danser, mais danser, donc, voilà ce qu'on appelait à l'époque les booms, choses comme
oui.
ça. Et mon ami qui faisait de la danse m'a dit... Tu devrais venir prendre un cours. J'ai mon professeur, évidemment, qui cherche des garçons.
Et oui,
et voilà.
Oui,
et donc,
sûr.
J'y suis allé, en fait. Et j'avais déjà aussi... ma mère m'a menée assez plus jeune à voir des opérettes à Toulouse,
okay.
en fait.
Okay.
Elle-même faisait quelques... On peut pas peut-être ça déballer, mais elle avait une sensibilité par rapport à la danse et au mouvement.
Ouais.
Elle adorait danser au bal. Aussi. Ce que je retrouve, moi, à l'heure actuelle, avec le tango, par exemple,
oui.
depuis quelques
oui,
années,
que êtes,
il y a
ouais.
des choses comme ça qui sont revenues dans ma vie, que j'avais... voilà, je me suis souvenu de ça, et maman était effectivement dans le corps, dans la danse, et dans la relation musicale, et dans le chant, en fait, aussi, puisqu'elle adorait l'opérette. Donc, voilà, c'est venu comme ça, à l'âge de 16 ans, en fait.
Très bien. Alors, Nazareth Panadero, vous êtes cette immense danseuse, chorégraphe. Vous avez travaillé pendant 30 ans avec et pour Pina Bausch au sein de Danse Theater Wuppertal, samedi et dimanche au Théâtre du Hangar. Et dans cette 43e édition, vous avez offert, vous nous avez offert, vous avez présenté au public Vive et Dejar Vivir. Il faudrait le redire en espagnol à ma place, je pense. Qui est composé de trois moments, en fait. To Die For, qui est une création de vous et puis Michael Strecker, que vous avez dansé tous les deux. Et puis la diffusion d'un court-métrage réalisé par Meritzel Aomedes, si je prononce pas trop mal, j'espère, qui s'appelle Intermezzo. Et enfin, une seconde création qui s'appelle la pièce Magnania Temprano. Et cet ensemble, vous l'avez donc créé aux côtés d'Adolf Binder, Michael Strecker et Meritzel Aomedes, dont Philippe Noisette, dans un article mentionné, a mentionné qu'il s'agit d'un dialogue entre le passé, le présent et le futur, et qui est, je dirais, enfin, ce que moi j'ai pensé, un magnifique hommage à vos deux routes, avec notamment Michael, en fait, qui est, les deux routes qui sont liées par une complicité, et une complicité dans le quotidien, en fait, dans la beauté des gestes simples, tout autant qu'un vibrant hommage à ce que vous a transmis Pina Bausch et ce que vous transmettez à votre tour. Et puis c'est aussi une véritable démonstration de la danse qui est à vous et rien qu'à vous, à vos, de vos danses à tous les deux. Avant que vous nous parliez plus de Vive Déjà Vivir, que vous avez offert ce week-end, comment est-ce que vous expliqueriez à quelqu'un qui ne connaît rien en danse, en fait, ce que c'est la danse-théâtre ?
Et avant, une petite déviation, on dit toujours que j'étais 30 ans chez Pina, j'étais plus de 40 ans.
Ok, on a arrêté de compter.
Je l'ai dit parce que c'est inhabituel quand même pour une danseuse. Voilà, parce que je suis arrivée en 79 et je suis encore, bon maintenant oui, je suis invitée déjà à la retraite, mais bon ça fait déjà...
Vous avez raison de le préciser.
Oui quand même, parce que c'est inhabituel. Alors le théâtre danse... Tanztheater. Ouais. Pour moi, c'est Tanztheater parce que j'ai connu en Allemagne le Tanztheater.
Ouais, le Tanztheater.
Le Tanztheater, c'est la danse sans frontières. C'est la danse. Ce n'est pas le théâtre. Mais c'est la danse qui ouvre tellement les bras qui arrive au théâtre sans arrêter d'être danse. Mm. Elle englobe multidisciplinaire, mais ça continue tout le temps d'être danse. Les décors sont importants, les accessoires, la musique. En fait, dans le Tanztheater, il n'y a rien au premier grade. Il y a plein d'éléments qui font cette ballon qui donne à la fin Tanztheater. Parce que c'est très important, les mouvements, mais aussi les textes, la musique, tous les accessoires, les décors, enfin, tout ce qui participe, les costumes, les cheveux, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on sent, est au premier rang. Mmh. Alors, ce mélange, c'est tellement multi, que ça fait devenir quelque chose qui est dansé, mais que, bon, moi au moins, avant de connaître Pina Bausch, je ne savais pas que la danse peut avoir les horizons tellement élargis et jamais arrêter d'être danse.
Avant que vous arriviez dans le studio de la radio, en fait, avec Jean-Pierre, on disait que grâce au fait que vous avez toute votre vie danser la danse-théâtre, on connaît votre voix, en fait. Parce qu'on ne connaît pas la voix des danseurs et des danseuses. Voilà. On ne les entend jamais, en fait. La vôtre est particulièrement... elle fait partie de votre identité artistique, en fait. Oui. Est-ce que ça veut dire que, pour Pina Bausch, la danse était trop petite, toute seule, et le théâtre, trop petit, tout seul ?
Nous, avec Pina, on parlait très peu. Alors, je peux simplement dire tout ce que j'ai compris moi-même par tout ce qu'on a fait. Elle n'a pas donné la définition. Enfin, il y a une phrase très belle de Pina dans son interview très, 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 très vieux que j'ai vu moi-même, ça ne fait pas très longtemps, quand elle était très jeune. Et elle disait, oui, j'ai fait quelque chose qui est théâtral, mais il n'y a que les danseurs qui peuvent le faire. Ça m'a montré beaucoup de choses, mais elle n'était plus là quand j'ai entendu ça. Mais oui, voilà, c'est ça.
Quelle est la première pièce de Pina Bausch que vous avez vue? Et après, on posera la même question pour Dominique Bagoué à Jean-Pierre.
Oui, moi, c'est Barbe Bleue. Okay. Alors, j'ai bien sûr pas oublié que je suis rentré chez Pina Bausch par la porte du château de Barbe Bleue à Paris.
Sacrée légende. Sacrée légende. Sacrée légende, Jean-Pierre. Oui.
Pour moi, ça a été Effenstein.
Ok.
Voilà, en 83.
Oui.
Ça a été un
c'est l'année d'avant que vous rentriez chez Bagoué.
C'est la même année, en fait. En 83, j'ai démarré la première pièce avec Dominique, qui était Grande Maison, qui s'intercale entre Effenstein et Désert d'amour, 84.
Okay.
Et ça a été un véritable choc. Je n'ai pas tout de suite compris ce qui se passait sur le plateau. J'ai vu un danseur extraordinaire qui traversait des états de corps, des états de conscience, d'inconscience absolument incroyables, accompagné par Sven Lava, un guitariste hippie punk, comme il aimait se définir. Ouais. Et ça a été un véritable choc. J'avais rencontré Dominique quelques temps avant, mais dans le studio. En arrivant à Montpellier, j'étais allé frapper, toquer à la porte de l'opéra, au studio de l'opéra au dernier étage, voir si je pouvais prendre l'entraînement de la compagnie le matin. Donc j'avais déjà eu un petit peu un goût, dire, de qui était Dominique. Très simple, très humain, très direct. Une personne adorable, d'une intelligence absolument incroyable. Mais je l'ai vraiment découvert, en fait, à un moment charnière de toute son œuvre, avec ce solo duo, on va dire, Effenstein, qui est une pièce fabuleuse, quoi.
Ok, très bien. Nazareth, sur ce Bibe deja vivir.
Bibe deja vivir.
Merci. J'attendais que ça.
Excuse-moi, qu'on n'a pas traduit les textes. Le reste, on a tout traduit. Si vous voyez la pièce, on parle français. Mais
exactement.
Le titre, on a laissé original.
Vous avez bien
comme
fait. sur votre intention, en fait, sur le désir du projet qui a fait naître ce projet, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter?
Alors, c'est le désir très naturel. C'est, avec Pina, on était très créatives. La compagnie de Pina, ce n'est pas une compagnie de répertoire. Les pièces passées étaient vivantes, mais on a créé tout le temps. Donc, on était dans l'état créatif. Et dans cet état créatif, on a joué les pièces qu'on a apprises de nos collègues, les pièces qui étaient arrivées avant que nous, on soit dans la compagnie. Et quand Pina est décédée, pour moi, presque immédiatement, je me suis dit que c'est ça ce que je regrette terriblement, que je ne serai plus créative. D'ailleurs, comme elle nous a permis de continuer à jouer ses pièces, on avait ce cadeau qu'elle est partie et elle a laissé qu'on continue. Donc c'était un luxe qu'on a en profité les jours même, parce que les jours où Pina nous a quittés, on avait le spectacle ce jour-là, déjà. Donc, on a immédiatement vu que sans Pina, Pina peut être encore avec nous. Donc, ce côté-là, il n'y avait pas tellement les questions, parce que ça a continué. Il y avait totalement une continuité, et avec la mort de Pina, il n'y avait pas du tout une décadence, il y avait une accélération, parce que c'était extraordinaire de voir qu'elle continue d'être là, qu'elle nous a tout laissé et qu'on peut continuer. Mais créativité, il n'y avait plus. Et ça, j'ai vu très vite que ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Donc, avec Michael Streck, avec lequel on a déjà été très collaboratif dans beaucoup de pièces de Pina,
bien sûr.
Relativement vite, on a commencé dans les jours libres, le dimanche, dans la pause, à faire des études, à participer quand il y avait de temps en temps des éditions underground où les danseurs de la compagnie pouvaient faire quelque chose, ce qu'ils voulaient. Puisque ça a été ouvertement clair qu'il y a les gens qui ont envie de faire quelque chose. Donc ça a été aussi créé après la mort de Pina. On peut... Évidemment, on était très occupés avec les répertoires, mais de temps en temps, il y avait eu des éditions comme ça. Bon, et une dernière édition de cet underground, c'était en novembre 19, on a créé cette première partie, « To Die For », pour le parc de sculpture à Wuppertal, qui est un très beau parc avec un très beau auditorium, et inspiré, en fait, pour les moments qu'on vivait, en nous, dans la compagnie, dans le monde, à toutes les émotions qu'on portait à ce moment-là, et par le cadre de cette sculpture en parc le mois de novembre. Mm. Ça, c'était la base pour cette « To die for ». Après, c'est fini, et à nouveau, on a envie de créativité, mais à nouveau, il n'y a rien. et il y avait Adolphe Binda, qui avait été directrice artistique de la compagnie. On a parlé avec elle, et on avait envie de continuer. Elle avait vu aussi cette duette, et on a eu l'idée de continuer. Donc, avec Adolphe Binda et Meritxell Aumedes, que Adolphe a proposé en tant qu'artiste audiovisuel, on a imaginé de faire une soirée. Mm. Et alors, au début, on ne savait pas si on va allonger ce To Die For, il y aura un peu de musique, ou Meritxell va faire peut-être un film. Mais bon, on est allés les quatre au studio, on a commencé, et finalement, on a fait Intermezzo de Meritxell dans la pause.
Qui est un court-métrage.
Voilà, le court-métrage. Et la deuxième partie, Mañana Temprano, qui veut dire Demain Matin. Mm. Alors, tout ce projet, on l'a mis sous le titre Vive y deja vivir. Mm. Évidemment, collaborer avec Adolphe Binda, c'était quelque chose de très important. Mmh. Elle est un grand dramaturge, elle est un directeur artistique dans des compagnies très importantes. Elle nous avait beaucoup touché aussi dans le temps qu'elle a passé au temps de théâtre. Quelqu'un de très ouvert, avec la distance, elle voit les choses différemment que nous, qui on est au Lichbourg, ça veut dire les studios de Pina toute la vie. Donc c'était un temps très intense. On a fait une coproduction, Théâtres del Canal Madrid et Festival Grec. Et on a eu des résidences à Berlin, à Suède, en Pologne, à Madrid. Et par la première fois, on a eu le temps de travailler. On est arrivé de la compagnie à voir les périodes libres, plus les vacances, bien sûr. Parce que sinon, avant, c'était le projet de dimanche.
Ça veut dire que même disparu, Pina, vous ouvrez des portes, encore?
Ben, c'est sûr. Ouais. C'est sûr parce que... C'est comme dire que Pina est partie, mais est-ce qu'elle a provoqué en moi?
Oui.
Il s'est resté. Oui.
Bien sûr.
Et la conséquence de ça, c'est que je continue.
Bien sûr. Alors, Jean-Pierre, pour vous aussi, évidemment, cette histoire de transmission autour de l'œuvre de Bagot est fondamentale, puisque vous êtes dans les créateurs des carnets de Bagot, en fait.
Oui.
Est-ce que, au-delà du fait que vous êtes particulièrement attaché, et c'est normal, à ces deux personnes, ces deux danseurs, Pina et Dominique, évidemment. Au-delà de ça, est-ce que c'est parce que la danse est un art de l'instant que c'est aussi important de la transmettre, en fait, aux générations futures?
Bien sûr. Oui, enfin, dans le cadre de Dominique, par rapport à la compagnie de Pina, au décès de Dominique en décembre 92, la compagnie est encore là, est en train de finaliser en fait Sauchenel version 2. Mmh. Et la compagnie va s'arrêter à l'été, juste après Avignon. C'est-à-dire que été 83, la compagnie n'existe plus. Donc on anticipe en fait cet arrêt de la compagnie pour créer l'association des Carnets Bagoué, qui a maintenant 30 ans, on fête le 30e anniversaire. Et on a senti tout de suite, en fait, que des demandes venaient de l'extérieur, puisque les danseurs étaient encore là. Une partie avait encore envie de continuer ce voyage, démarré des années précédemment avec Dominique, et de porter encore, de donner à voir encore cette danse-là, puisque les pièces étaient là, étaient présentes. Donc il y a eu des demandes qui ont été faites à la fois pour reprendre des pièces anciennes, oui. Entre autres, Désert d'amour, ça a été relativement rapidement une des premières demandes qui a été montée pour le Lyon Opéra Ballet.
Oui.
Mais il y a eu aussi un remontage du Saut de l'Ange avec Régine Choupineau.
Oui.
Enfin voilà, des demandes sont arrivées assez rapidement et encore maintenant, des demandes arrivent. Donc on se dit que 30 ans après, voilà, la danse est là, elle est encore présente. Les carnets, dans sa structuration, on va dire, a beaucoup évolué. On a travaillé énormément, entre autres, au sein des carnets. C'est Annabelle qui a porté les carnets jusqu'à maintenant, puisqu'elle se retire progressivement, mais elle a mis en archive, tout est archivé de tous les éléments qui faisaient la danse de Dominique, du costume aux interviews,
oui,
enfin,
très
etc.
Écrit, ouais.
Donc il y a encore une chose, moi ça me nourrit encore, c'est-à-dire que la danse
Bien sûr.
Dominique me nourrit encore 30 ans, 40 ans après.
Bien sûr.
Donc cette chose-là, cette transmission-là, évidemment, c'est important que les jeunes générations puissent voir ces pièces-là, puissent goûter à ce qu'on a goûté, même si ce n'est plus la même chose. Et ça, c'est important.
Mais bien
aussi.
Sûr, on va en parler.
Voilà, mais
c'est ça.
Mais voilà, oui, non, tout à fait. Il y a une nécessité absolue, il me semble, à transmettre et à ce que cette danse-là, ces deux danses-là, soient encore présentes sur les plateaux.
C'est ça. Alors, Nazareth, vous n'avez pas fini de travailler, entre guillemets, et de danser pour le festival. Si on écoute ça. Palermo, Palermo,
oui,
que vous allez danser. je crois que Palermo, Palermo, dans votre histoire qui vous lie à Pina Bausch, c'est un moment un peu particulier. En fait, c'est le seul moment où vous êtes un peu écarté de la troupe Pina Bausch, et puis vous revenez, et c'est Palermo, Palermo.
Oui.
Du coup, est-ce que cette pièce-là, elle a toujours un goût particulier pour vous?
Ben, en fait, les pièces de Pina, elles sont tous un goût particulier, c'est
oui.
Les siens, les siens de son moment.
Bien sûr.
Mais Palermo, Palermo a le goût particulier de que j'avais été 6 ans chez Pina, les premières 6 ans. J'avais trouvé ça une montagne difficile à surmonter.
Oui.
Enfin, j'ai aussi fait beaucoup de choses dans ces premières 6 ans, mais
bien
en
sûr.
Fait, j'avais trop de respect. J'étais trop fatiguée parce qu'il y avait trop de respect, en fait. Donc, je me suis éloignée, je suis partie avec Janusz Subic, qui est mon mari, et avec lequel, justement, je suis arrivée à Wuppertal, on était tous les deux, on était en Espagne, on avait aussi envie d'essayer de faire quelque chose, on a travaillé en Espagne, à Granada, avec un projet pédagogique, on a fait aussi un spectacle, et en étant en Espagne, enfin, on venait de temps en temps en tant que guest, mais pour nous, ce n'était pas clair qu'on va revenir parce que le travail avec Pina, elle était énorme. Elle était énorme. On se sentait très petit par rapport à cette dimension de Pina, surtout en tant que jeune. Mm. Non? Et quand on n'était pas dans la compagnie, Pina a créé Victor et Annen.
Okay.
Et on est venu invité par Pina à un festival à Wuppertal pour Valsa en 1980, quelque chose, je crois. Et là, un jour, et le lendemain ou deux jours après, on a pu, parce que c'était comme festival, Victor et Annen, et on a vu ces deux pièces. Et on a vu quel chemin Pina a fait dans le peu de
dans
temps
le peu
que
de temps,
j'ai
vous êtes
tourné
parti
la tête.
À la Grenade.
Que on a dit, ah, c'est pas possible, mais il faut revenir parce que c'est pas pareil être dedans qu'être dehors.
Bien sûr.
Tout ce qu'on voit de dehors, on voit encore plus à quel point c'est important. On a voulu revenir.
Bien sûr.
Pina nous a immédiatement accueillis. Alors, on venait de revenir et avec cette conscience, j'avais déjà vieilli quelques années, j'avais déjà travaillé avec Pina, j'avais déjà pris une distance et j'avais redécidé que ça vaut la peine de donner la
bien
vie
sûr.
Pour ça. Avec cette bagage, j'ai commencé Palermo, Palermo et c'était. Et j'avais, avec toutes ces informations, j'ai perdu beaucoup d'autocensure. Et à mon avis, c'est à partir de Palermo, Palermo que je pouvais travailler plus facilement. Ça veut dire que je pouvais me permettre de trouver des idées, d'avoir le courage de montrer des choses beaucoup plus. Donc ça a ouvert mon étape adulte chez Pina.
Très bien. On marque une très courte pause. Ça, c'est la musique du film qu'a réalisé Wim Wenders sur Pina Bausch. Quand, voilà, aujourd'hui, on ne parle que de transmission, d'héritage, etc. C'était aussi ma façon à moi de faire un petit clin d'œil. Jean-Pierre Alvarez, vous êtes danseur, chorégraphe. Vous l'avez notamment été de 83 à 89 dans la compagnie Bagoué, on l'a dit. Vous l'avez assisté sur la création
les
petites pièces de Berlin, exactement.
Désert et Kroll, Dominique avait retravaillé pour le GRCOP à l'époque.
Vous êtes on l'a dit aussi, un des membres fondateurs des Carnets de Bagoué. Vous avez ensuite et en plus poursuivi votre route en tant que chorégraphe et vous êtes actuellement professeur au conservatoire de danse ici à Montpellier, notamment dans le cursus de danse contemporaine. Il y a 3 ans, c'est Catherine Legrand qui est remontée sous Chenel. L'an dernier, c'était Rita Sioffi avec les interventions de Olivia Granville, Sylvain Prunenec et Fabrice Ramalingon qui est remontée Nécessito. Et cette année, c'est vous, aux côtés de Sarah Matriguer, qui allez nous offrir une relecture qui allait remonter des airs d'amour. Ce sera les 3 et 4 juillet prochains à l'Opéra Comédie. C'est une collaboration avec des danseurs mexicains, on va y revenir. Alors avant de nous parler de ce travail de transmission et de recréation, racontez-nous quel genre de pression c'est voilà. De danser et remonter Dominique Bagoué ici. En fait.
Alors, je suis un petit peu, comme on dit, la tête dans le guidon en ce moment, puisque on est à une semaine pile de la première, pour le remontage. Donc, j'essaye de doser un petit peu. C'est d'abord, de toute manière, c'est un grand plaisir. Je m'attache à ça et je m'attache surtout, il me tarde beaucoup demain matin, puisque tous les danseurs, l'équipe des danseurs arrivent ce soir.
D'accord.
Et on va enfin se retrouver dans le studio.
Et se remettre au
vous
travail.
Vous ne pouvez pas savoir combien il me tarde. Et c'est là que ça se passe, en fait. Et après, ça se passera sur le plateau. Mais je m'accroche à ça, en fait. Donc, c'est vrai que les sollicitations, c'est très bien, parce que ça permet de parler du travail. Mais c'est vrai que la pression, je commence à rencontrer, depuis le début du festival, des gens qui me disent « Ah, super, on va revoir des airs d'amour. Je ne l'avais pas vu, j'en ai entendu parler. » Ou quelqu'un qui me dit « J'ai vu la pièce, effectivement, en 84. Donc, il y a tout dans cette mémoire des gens que je rencontre ici à Montpellier qui ont vu ou n'ont pas vu la pièce. Mais il y a une chose qui est en train de circuler, qui, effectivement, avec laquelle j'essaie de prendre un petit peu de...
C'est beaucoup.
Un petit peu de distance.
Ça, je comprends. Je comprends. On écoute un très court extrait d'une interview qu'a accordée Sarah Matriguer à l'équipe de Montpellier Danse.
Plus particulièrement pour cette reprise d'une pièce de Dominique, c'était aussi faire connaître et voir comment, avec le temps, avec les 30 ans qu'on passait, les danseurs ont changé. Aussi, on a une autre manière de travailler. Nos corps sont pas forcément habitués à cette manière-là de travailler. Donc, c'est aussi pour nous une grande... on va dire, un challenge qui est quand même assez important. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, cette idée de pouvoir voir aussi comment on pouvait, à travers le temps, apporter à la danse qui a été créée il y a 30 ans. C'est-à-dire qu'on a une écriture qui est très claire, mais on a des danseurs qui n'ont jamais connu le travail de Dominique. En plus, là, on parle vraiment d'une culture aussi différente, parce que c'est un projet qui est en collaboration avec le Mexique, donc c'est un danseur mexicain qui connaissait pas le travail de Dominique. Donc c'était aussi cette envie de pouvoir amener le travail de Dominique à l'international, plus particulièrement en Amérique latine, et aussi de voir comment ces danseurs-là, qui sont complètement, qui ont un autre entraînement, même je dirais qu'en France, peuvent apporter quelque chose de nouveau. Et comment ça va être différent. On sait que ça va être différent. Ce sera, on espère que ça va pouvoir s'apparenter, s'approcher. Mais je pense qu'il ne faut jamais s'attendre à quelque chose d'identique parce que ça ne le sera pas. Parce qu'il y a 30 ans qui nous séparent et il y a 30 ans on n'a pas les mêmes corps, on ne travaille pas pareil. Et tout ça, c'est ce qui m'a intéressée dans la reprise. Je pense que c'est ce qui m'a attirée.
Alors ça, c'est vraiment une question que je trouve passionnante, en fait. C'est ce voyage de 30 ou 40 ans avec maintenant des gens qui ne connaissent pas ni Pina Bausch ni Dominique Bagoué, des gens qui ne travaillent plus de la même façon et des corps même qui ne sont plus les mêmes, en fait. Du coup, par quel angle vous l'attaquez, en fait?
Alors, pour moi, avec les 30 ans de recul, puisqu'on a fait, plus différents remontages dans des contextes
bien
différents
sûr.
À chaque fois.
Bien sûr.
Donc, ce qui est l'axe principal pour moi, c'est ce qu'a mis Dominique en place avec nous à l'époque.
D'accord.
c'est-à-dire en 84, sur la pièce de Désert d'amour. Ce qu'on a appelé la fameuse posture bagouée, c'est-à-dire dans le fait de travailler, d'être dans une délimitation claire de soi, dans des appuis stables et forts, et d'être du coup, c'est le fait d'être dans quelque chose de très tranquille sur le plateau, de pas faire le danseur, mais d'être, d'incarner vraiment ce que l'on est, c'est-à-dire d'être dans un rapport humain au plus direct dans nos sentiments, nos émotions et dans tout ce qu'on peut traverser par rapport à une chorégraphie qui nous est donnée. Et cette posture-là qui permet justement de travailler ce que travaillait d'ailleurs Dominique, l'altérité, c'est-à-dire de la reconnaissance chez l'autre aussi de ses différences. Moi, physiquement, j'aborde le travail comme ça. C'est-à-dire qu'on revient sur des choses très simples, en fait, pour travailler dans le corps du mouvement, dans le corps du geste, dans le corps de la posture, dans le corps de comment je suis déjà moi-même. Là, dans mes appuis, comment je suis dans ma délimitation, comment je prends les informations, comment je peux les donner de manière les plus claires et les plus simples possibles. C'est difficile. J'en parlais dernièrement avec quelqu'un, dans les temps de remontage, on n'a souvent pas le temps, justement. Mmh. C'est-à-dire qu'on est, pour des questions économiques, évidemment. Donc ce temps-là qui permet au corps d'intégrer une manière d'être au plateau, et pour ces danseurs-là, ils n'avaient pas l'habitude de travailler comme ça. Donc ce temps-là, c'est important de pouvoir l'avoir pour pouvoir se rapprocher justement de la nature même du mouvement et de la posture que Dominique avait envie de voir sur un plateau.
Finalement, est-ce que ça a un peu à voir avec l'intention ? Nazareth, est-ce que vous avez été confronté à cette situation ? Danser avec des gens très jeunes qui n'ont pas connu Pina Bausch, Bausch. Et est-ce que vous partagez l'avis de Jean-Pierre ?
Oui, pour moi, c'est un peu parallèle. Oui, il faut s'y habituer, non ? Il faut s'y habituer. Et nous, ça fait moins longtemps qu'on est seul. Hein.
Bien sûr.
C'est quand même 14 ans, mais c'est beaucoup moins longtemps. Je considère que quand il y a un créateur qui est parti et il a laissé une œuvre, c'est simplement très dommage que ça disparaisse.
Bien sûr.
Et même si ce n'est pas comme avant, il vaut mieux que ça reste dans ce monde, que ça soit joué, parce que ce n'est pas directement lié à nous qu'on a créé avec. C'est l'œuvre en soi-même qui se défend soi-même. Et donc ça, c'est un élément qui pour moi est clair. Un autre élément qui pour moi, ça m'inspire aussi, c'est de voir que en fait, un danseur, quand on commence à danser, c'est qu'on désire, mais on n'a rien, très peu en soi. Et c'est parce qu'on apprend plein de choses que notre corps commence à être habité par la danse. Et c'est grâce à qu'on a le droit à rentrer dans des pièces de chorégraphes que notre corps, qu'on devient danseur. Et j'ai dit ça parce que j'ai déjà eu suffisamment d'occasions de voir dans des jeunes danseurs, soit dans la compagnie ou soit dans les compagnies qui reprennent Pinam. J'étais à Munich pour les enfants d'hier et de demain, à l'Opéra de Paris pour Kontaktov, Café Müller à Antwerp. J'ai eu déjà le contact avec ceux qui n'avaient absolument rien à voir avec Pina, ou alors les nouveaux qui arrivent dans la compagnie. Et j'ai vu que pour ces gens-là, c'est tellement important. Ils ont tel respect et c'est tel cadeau. Ils vivent ça comme un cadeau.
Évidemment.
Que rien que pour ça, ça me paraît aussi une motivation. Et puis je vois que toutes les différences qui les séparent de nous, justement, sont compensées parce qu'il y a une autre manière de communication et d'entente, parce qu'on est tous les danseurs, eux et nous. Et là, on se retrouve quelque part. Et justement, c'est très beau de voir qu'il y a les gens qui n'ont jamais connu Pina, qui quand même arrivent à habiter les pièces, à grandir, à se développer et à s'approcher quelque part de l'œuvre de Pina. Donc, je n'ai aucune question là-dessus. Et pour moi, c'est secondaire. Est-ce que c'est pas comme avant? Je dois dire, parfois, quand je vois les pièces de Pina, avec trop, à Wuppertal, avec vraiment plus aucun originel, j'ai déjà eu l'occasion. Parfois, je me dis, OK, ce n'est pas toujours idéal, mais le squelette de la pièce, il est là.
Mmh.
Et je continue à les voir. Mmh. Et évidemment. Je suis bien contente de les voir, sinon il n'y aurait qu'une vidéo.
Oui, bien sûr. Mmh. Moi, nous, la danse de Dominique, elle est morte quand Dominique est mort, en fait.
Oui.
Donc, ce qui vient après, c'est autre chose. Hein. Oui. C'est différent. Ça peut être des études. Peu importe, mais on est sur un autre registre.
Hein. Mmh.
Et il faut essayer de chercher à... Enfin, les carnets se sont toujours attachés à faire des transmissions vivantes, en fait. On n'est pas dans... On n'a jamais eu envie de faire un musée, des pièces, des pièces chorégraphiques muséales.
On
est encore vivant, il y a encore des danseurs, il y a encore des gens, des jeunes, etc., des générations qui ont envie de traverser ces danses-là.
Mmh.
Gardons-les vivantes, quoi.
Et malgré ça, en fait, Jean-Paul Montanari nous offre une édition, en fait, où on peut croiser dans les rues de Montpellier Jean-Pierre Alvarez, Nazareth Panadero, Galota, Anne Martin, en fait. Ma dernière question, parce que je vais vous libérer, et je vous remercie d'être resté un peu plus longtemps. Si on avait comme ça une baguette magique, et là, hop, on retrouve Dominique Bagoué et Pina Bausch, en fait, sur cette là, à Montpellier, dans la rue, ils vont aller au spectacle. Qu'est-ce qui se dirait, vous pensez, là, tous les deux, s'ils devaient se croiser?
Si Pina et...
Maintenant, là.
Au sujet de la danse ou au sujet de la mort? Ouais,
ça serait la question. Est-ce qu'on parle danse ou est-ce qu'on parle mort?
Restons vivants. Je pense que c'est...
Merci infiniment. Merci Nazareth Panadero. Merci Jean-Pierre Alvarez. Merci d'avoir accepté notre invitation dans ce magazine au cœur du festival sur Divergence FM. Merci à Naomi à la réalisation et à Bruno Bertrand. Pardon. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne continuation dans cette 43e édition du festival Montpellier Danse et à très vite sur Divergence FM.
Au cœur du festival, l'émission de la 43e édition du festival Montpellier Danse. À retrouver en direct les 19 et 26 juin à 17h sur Divergence FM.